L'Hippo ou le neuvième jour de Géode Ham. Collection Histoire à rêver debout. 9 jours pour tout savoir et pour décider de sa destinée.
Texte en lecture libre sur atramenta.net.
L'Hippo ou le neuvième jour. Quand l'Hippo naquit, nul ne pouvait se douter de ce qui allait arriver. Rien ne le distinguait de ses frères et sœurs. Comme eux, son corps transparent se revêtit d'une armure de cornes de couleur brun et bronze, ressemblant en tout point à celle de leurs parents. Sa tête était aussi fine et racée, portée avec la majesté inhérente à sa race, sous sa crinière hérissée comme de fragiles coraux d'ambre, avec des yeux d'or, vifs et curieux, et une toute petite bouche tendue comme pour siffler. Sa queue était longue, mince et souple, aux anneaux réguliers dans la perfection de la courbe, en point d'interrogation à l'envers. Sa nageoire dorsale, vibrant comme une hélice, était translucide et nervurée, semblable à un éclat d'obsidienne. Cependant, son minuscule cerveau montra bientôt des signes précoces d'une intelligence supérieure, hors de la norme. Il devint sans tarder tout à fait évident que l'Hippo était surdoué. Il était surdoué aussi par l'imagination et l'intrépidité, touchant presque à une témérité outrageuse qui mettait en péril son devenir. Il s'était mis dans la tête de partir, découvrir le monde, l'univers, le passé, le futur, que rien de ce qui existe et de ce qui s'imagine ne lui reste inconnu. Son père avait beau l'avertir, le mettre en garde, lui objecter toutes sortes de raisons, il n'écoutait rien. Il clamait et réclamait tout haut une liberté que seul le patriarche, maître suprême de sa race, pouvait lui accorder. Son indiscipline notoire le rendit insupportable et était cause d'un grand désespoir pour sa famille. Un jour vint où le patriarche le fit mander. Dès qu'il le sut, l'Hippo ne se tint plus de joie et, afin de se montrer digne de cet insigne honneur, parvint jusqu'à ce moment-là à contenir ses ardeurs et civiliser ses impulsions. L'Hippo se rendit à l'invitation. Il ne franchit pas l'entrée du palais patriarcal de corail et de nacre sans une émotion qui lui étreignit la gorge pour la première fois de sa vie. Les gardes, à l'entrée, raidis dans leurs uniformes écailles, le guidèrent jusqu'au maître de Séon. Le patriarche, davantage qu'un roi, était un sage auquel l'expérience des ans donnait autorité pour guider ses congénères sur la voie de la prospérité. Chacun pouvait venir le consulter, et ceux qui l'écoutaient et suivaient ses conseils s'en trouvaient fort aise. Le patriarche s'entretint longtemps avec l'Hippo, lui posant moult questions sans jamais dévoiler ses propres intentions. L'Hippo s'efforçait à une sagesse qu'il était loin de ressentir et qui contrariait ses habitudes par trop effervescente. Enfin, quittant son attitude d'écoute, le patriarche se redressa et, après avoir réfléchi un instant en silence, déclara « L'Hippo, je crois savoir de toi ce qu'il était nécessaire que je sache. Tu demandes à partir, parcourir le monde, découvrir l'univers, soit, je te l'accorde. » L'Hippo ne put se retenir de sauter de joie, mais le patriarche rabattit son exubérance d'un geste. « Je te l'accorde, mais pendant seulement 9 jours, à partir d'aujourd'hui. C'est bien assez pour que tu trouves fortune. Si tu n'es pas de retour dans 9 jours sans faute, tu resteras prisonnier du lieu où tu te trouveras à ce moment-là. Est-ce bien compris? 9 jours, pas un seul de plus. Oui, oh oui, oh merci. Ne me remercie pas, l'Hippo. Tu te repentiras peut-être durant ces 9 jours, et après si tu ne reviens pas parmi nous d'avoir ainsi voulu voyager. Pour bagage, tu n'emporteras que ton intelligence. Et pour moyen de locomotion, ta nageoire aura la faculté de se transformer en aile lorsque tu auras quitté notre atmosphère. Merci, vénéré patriarche, je respecte votre sagesse et je tâcherai de m'en montrer toujours digne. Voilà les premières paroles sages que tu prononces, l'Hippo. Garde-les toujours en mémoire, elles te seront sans doute utiles. Maintenant va, et n'oublie pas, 9 jours, rien que 9 jours. L'Hippo, impressionné par le ton grave et pourtant affectueux du patriarche, le salua avec un respect nouveau et partit. Revenu chez lui, il embrassa les membres de sa famille, empreint d'une vague de tendresse qu'il n'avait jamais ressentie. Puis, sans se retarder ni se retourner pour ne pas montrer son émotion, il s'élança vers son avenir. Sa nageoire souple et robuste le menait à grands flots vers l'inconnu. Le paysage, familier d'abord, l'enchanta. Il butina d'anémones en coraux, joua dans les ombres et les lumières des rocs et des algues, gigantesques comme des arbres ou veloutés comme des gazons fins. Il s'attarda jusqu'à ce que le gong d'un ormeau le ramène au sens de l'heure. 9 jours, 9 jours seulement, une éternité qui serait bientôt trop courte. L'hippo se hâta, franchissant les frontières de ce qu'il connaissait. Il traversa des plaines arides et vides, des forêts sombres et mystérieuses, surmontant des falaises aux vives arêtes, croisant des foules d'êtres aussi divers que la création ait pu les imaginer, plongeant enfin dans un abîme où il fut attiré par des lumières, des chants, des danses, accueilli en grande pompe. Il n'eut pas le temps d'être flatté d'une telle réception et déchanta quand il fut bousculé pour laisser passage à un char magnifique, coquille rutilante d'or et de nacre sculptée, tirée par des malheureux pilotes qui n'en pouvaient plus. Sur le char, tonnant, tonitruant, trônait un personnage imposant par sa taille et par sa barbe qui flottait sur son ventre. D'une voix grondante, il se plaignit. « Vous n'êtes bons à rien, vous êtes des incapables !» Les pilotes s'enfuirent sur le champ. De sveltes sirènes entourèrent alors leur dieu et maître dans l'espoir de le charmer et de lui rendre sa bonne humeur. Mais c'est vers l'hippo, caché et coincé dans une anfractuosité de rocher, qu'il pointa son trident. « Toi, ordonna-t-il, viens et attelle-toi à mon char. » L'hippo, avec l'orgueil insolent de sa jeunesse, refusa de la tête. « Non ! Tu oses me dire non, petit misérable ? Dire non à Poséidon, moi, le dieu de la mer ? Je suis ton dieu, je suis ton maître !» La colère manquait d'étouffer le vieux dieu. Effrayées, quelques sirènes susurrèrent quelques airs à l'oreille de l'hippo qui, envoûté, ne put résister. Peu après, il traînait son maître au grand galop de sa nageoire qui vrillait les eaux comme une hélice. Poséidon, ravi, riait enfin. Il y avait belle lurette qu'il ne s'était autant amusé, luttant de vitesse avec les poissons les plus rapides, jouant à sauts de baleine, dansant avec les dauphins, tandis que ses sirènes favorites l'accompagnaient de leurs chants harmonieux. Quand enfin il accepta de retourner dans son palais, l'hippo était épuisé et ne souhaitait plus qu'une chose, dormir. Hélas, Poséidon ne l'entendait pas de cette oreille et l'invita à sa table où l'attendaient des coquilles de plancton, des coraux en branches, des sablés dorés et autres mers affinées. Là, entre 2 bouchées de pain d'algues, il le fit parler et l'hippo expliqua ainsi qu'il l'avait fait avec le patriarche qu'il voulait parcourir le monde, découvrir l'univers. Quand il lui dit qu'il n'avait que 9 jours devant lui, le dieu de la mer murmura pour lui-même « Dommage, dommage, je t'aurais bien gardé avec moi. Mais voyons, le patriarche accepterait-il de m'envoyer quelques-uns de tes frères et sœurs? Ils seront bien traités, assura-t-il. Tes frères seront à mon service et tes sœurs à celui de mes sirènes. » L'hippo, malgré son irrésistible besoin de sommeil, trouva encore la force de répondre « avec tout le respect dû au rang de son hôte illustre, que sans aucun doute le patriarche l'accepterait, et que ses frères et sœurs seraient très honorés de le servir, comme lui-même le serait s'il ne devait repartir. Alors, encore enchanté de son après-midi, Poséidon, en buvant son vin de sel, décida de récompenser l'hippo. « Je vais t'avancer dans ta quête, l'hippo. C'est le temps du grand voyage des saumons. Ils partent des Sargasses pour retrouver le lieu de leur naissance et donner le jour à leurs enfants. Je vais te confier à eux. Tu peux être tranquille, ils nageront toute la nuit et t'entraîneront avec eux pendant que tu dormiras. Lorsque tu te réveilleras, tu arriveras à ta prochaine destination. » « Merci, vénéré Poséidon, » put à peine murmurer l'hippo qui était trop fatigué pour seulement demander quelle serait cette étape. Quand il s'éveilla au matin du 2e jour, l'hippo s'aperçut qu'ils avaient voyagé sans s'arrêter. Frais et dispos, il s'ébroua avec l'impétuosité de sa jeunesse, salua ses compagnons avec reconnaissance et les regarda partir. L'eau n'était plus salée, elle n'était plus claire. L'intuition de Lippo lui fit comprendre qu'ils avaient quitté l'océan pour l'embouchure d'un grand fleuve. Curieux, il battit Fola pour connaître ce nouveau paysage, chemin liquide tracé dans des terres couvertes d'arbres où vivaient des êtres bien différents de ceux qu'il avait découverts au royaume de Poséidon. Soudain, au fond de l'estuaire, là où le courant descendant refuse la volonté de la mer, Lippo fut happé dans un tourbillon par une sorte de monstre tapi dans un abri de pierre blanche. « Qui es-tu ? » questionna ce dragon, ou plutôt cette dragonne. « Je suis Lippo, » répondit-il avec politesse, et il se mit à expliquer, comme à Poséidon, qu'il avait voulu visiter le monde, explorer les galaxies et acquérir la connaissance universelle. Tout en parlant, il observait la dragonne. Celle-ci, tentaculaire, aux multiples têtes, aux yeux et aux oreilles innombrables, engloutissait sans compter des tonnes d'argent en quantité incroyable et parfois crachait autour d'elle en longues flèches la suie des fumées et l'or des flammes ainsi qu'un volcan en pleine activité. Impressionnée, Lippo n'osait lui demander son nom. Elle dut deviner son embarras, car elle dit, lorsqu'il se tut, « Je suis la Drac. Si tu veux poursuivre ta route, tu devras répondre à une énigme, semblable à celle que posait le sphinx antique. Es-tu prêt à l'écouter ?»«
Oh oui !»«
J'existais avant qu'il ne m'érige. Je suis l'amont de son avenir. Je suis l'aval de son histoire. Qui est-il ? » ?»« Tu n'as droit qu'à une seule réponse. Si elle est juste, tu auras la clé de ta prochaine étape. Si elle est fausse... » La Drac ne termina pas sa phrase, mais son ton redoutable fit frissonner Lippo jusqu'au tréfonds de sa préhistorique ascendance. Sur l'instant, il crut sa dernière heure arrivée. Fini le long voyage de 9 jours, la solennelle promesse donnée au patriarche, il lui revint en mémoire ces paroles. « Pour bagage, tu n'emporteras que ton intelligence. » C'était donc là qu'il trouverait la solution à l'énigme. Hélas, Lippo n'avait plus aucune idée en tête et seul l'orgueil l'empêcha de supplier la Drac de lui souffler un indice. « Tu peux visiter mon palais, » proposa son hôtesse. « Tu as la journée pour me donner ta réponse. » Lippo remercia et décida, pour ses derniers moments de vie, de profiter de cette invite. Dans le dédale de couloirs et de salles, Lippo fut enchanté par le goût de luxe et d'art qui avait réuni en ces lieux tant d'œuvres et de beauté. Peintures anciennes ou modernes, d'artistes célèbres ou locaux, paysages et portraits, sculptures de marbre et de tuffeau, de l'allégorie à l'histoire, dessins, sanguines et aquarelles, livres de toutes sortes, du manuscrit enluminé jusqu'aux éditions rares, archives et documents uniques variés à l'infini. Toutes ces créations culturelles meublaient les entrailles multiples de la Drac, tel un labyrinthe extraordinaire de lumières et d'espace. Lippo rit de bon cœur au théâtre comique de boulevard et à celui des marionnettes, fut enchanté par un concert classique, ému par un opéra romantique, impressionné par la tragédie antique, bouleversé et ravi par les grandes heures du cinématographe. Il plongea avec délice dans les secrets d'histoire gardés dans les terres depuis la nuit des temps, ou dressés dans des pierres érigées en monuments au long de toutes les époques. La journée passa comme un éclair, et Lippo ne put, à son plus grand regret, réaliser l'inventaire éclectique de toutes ces merveilleuses richesses qui se multipliaient sans fin comme si elles étaient au creux d'un kaléidoscope géant. Le soir venu, il fut convié à la table de la Drac comme il l'avait été à celle de Poséidon. Et tout aussi saoulé de découvertes, il fut sommé, tout en grignotant quelques galettes précieuses, de donner sa réponse à l'énigme. Il avait grande envie de demander, au cas où il se tromperait, la grâce de pouvoir poursuivre sa vie au palais de la Drac. Mais il n'osa pas, et après un dernier instant de réflexion, il dit, sans manifester son angoisse, « C'est l'homme !» La Drac, surprise, avala trop vite l'argent qu'elle dévorait, faillit s'étrangler, et cracha suie et or, puis à regret, soupira, « Tu as raison, Lippo, tu as trouvé la solution. J'aurais aimé te garder près de moi. Je te regretterai. » Lippo assura avec sincérité qu'il en était de même pour lui, mais qu'il devait poursuivre son voyage. « Je te comprends. Alors viens avec moi. » Lippo aurait préféré se reposer, mais il suivit la Drac dans un immense hall au dallage échiquier noir et blanc. Des statues de la taille de Lippo se dressaient immobiles sur les cases noires, les unes couleur d'ivoire, les autres couleur d'écaille. La Drac se dirigea vers l'une de celles en écaille, la souleva et alla la poser dans un coin. Puis elle intima l'ordre à Lippo de prendre sa place. « Tu peux maintenant te reposer. Quand tu te réveilleras, tu connaîtras ta prochaine destination. » Lippo ne fut pas assez curieux pour questionner. Il obéit et remercia la Drac avec respect pour sa grande générosité. Il ferma bientôt les yeux, seul être vivant dans cette grande salle remplie de sculptures. Au petit matin du troisième jour, il s'éveilla, toujours dressé sur son échiquier, dans une autre salle, beaucoup mais beaucoup plus vaste. De chaque côté de l'échiquier, un de ces hommes de l'énigme de la Drac. Tour à tour, il déplaçait les sculptures, parfois il les nommait, et Lippo les reconnut peu à peu à leur figure. Le roi ivoire et le roi écaille, la reine ivoire et la reine écaille, les tours, les fous, les soldats, tous partagés à égalité entre l'ivoire et l'écaille. Seuls les cavaliers étaient différents, deux ivoire contre un seul écaille. Lui, Lippo, remplaçait le second cavalier écaille. Il n'eut pas de mal à engager, au cours des changements du jeu, la conversation avec les soldats auxquels il inspirait un respect surprenant. Eux étaient très fiers de guerroyer pour leurs souverains respectifs et n'hésitaient pas à leur sacrifier leur existence. Les tours, plus orgueilleuses, restaient sur la défensive, celles d'ivoire s'isolant, celles d'écaille se hérissant de façon caractéristique. Lippo salua avec une déférence lointaine les têtes couronnées ivoire et présenta au roi et à la reine écaille l'assurance de son entier dévouement. Ceux-ci reçurent ce témoignage avec condescendance, sans se départir de la noble attitude que leur conférait leur rang de suprême dignitaire. Les fous, eux, furent plus expansifs, et de leurs manières caricaturales et satiriques, que seuls ont le droit d'user, peignirent à Lippo la vie de cour, la vie de chasse, la vie de pouvoir, la vie royale enfin. Lippo fraternisait avec eux par sa grande jeunesse et eut bien volontiers approfondi cette amitié, mais, hélas, il n'était pas fou, et l'autre cavalier écaille réclama sa présence à ses côtés. Avec ce nouveau compagnon, il connut la vie de guerre, la vie de conquête, la vie de croisade, la vie royale aussi, quand le roi se portait représentant de Dieu sur terre. Lorsqu'il participa au défilé triomphal de sa couleur, il apprit qu'en d'autres vies, il aurait pu caracoler parmi les armées à pied, parader au sein des armées montées, porter les polices à uniformes rouges et chamarrés, s'encarapassonner de vives couleurs pour des combats équestres et des tournois de chevalerie galante. Il aurait pu se dresser au pas d'amble et de valse des armées de prestige, cadres noirs et gardes de la République des hommes. Là encore, l'intense désir de savoir de Lippo aurait trouvé à s'abreuver jusqu'à plus soif quand le roi écaille le fit quérir à son petit souper. « Qui es-tu ? » questionna le souverain en mangeant avec les doigts un chapon rôti à point. « Je suis Lippo, votre majesté, » répondit Lippo avec humilité. « Nous savions bien que tu n'étais pas de notre monde. Que viens-tu faire parmi nous ?» Lippo expliqua, comme il l'avait fait avec le patriarche, Poséidon et la Drac, qu'il voulait découvrir le monde, parcourir l'univers et tout savoir. « Vaste programme !» approuva le roi écaille en dégustant un ragoût de sanglier qu'il avait chassé lui-même. « Où comptes-tu aller ? Car nous supposons que tu ne vas pas rester avec nous. » « Je l'ignore, votre majesté, là où me guidera le hasard, sans doute. » « Écoute, Lippo, nous te regretterons, car tu es bon cavalier et bon stratège. Mais nous comprenons ton désir. » « Alors ?» Le roi s'interrompit pour réfléchir un instant, mais surtout pour engloutir un morceau de brochet pêché du matin, cuisiné au fenouil et à la nette. « Nous allons t'indiquer ta prochaine étape. Tu vas retourner sur l'échiquier. Là, tu devras en trouver la sortie comme d'un labyrinthe. Si tu y parviens, tu poursuivras ta route. sinon tu seras échec et mat et resteras parmi nous. » Lippo remercia, assura avec grand respect au roi que rester dans son royaume lui agréerait volontiers, mais qu'il espérait bien s'échapper du labyrinthe afin de remplir sa promesse au patriarche. « Tu mérites d'y arriver, et nous te souhaitons bonne chance. Cependant, tu dois t'y rendre sur l'heure. Alors va, et ne perds pas ton temps. » Lippo, que ce jour bien plein avait pourtant éreinté, n'osa plaider pour son repos. Il salua avec déférence le roi qui croquait en dessert un pain aux épices et au cédrat confit, et s'en alla pourvu d'une tranche de gâteau en guise de dîner. Dès qu'il fut sur l'échiquier déserté, il vit s'ouvrir devant lui moult portes et couloirs. Ainsi qu'il l'avait dit au roi Écaille, il laissa le hasard et son instinct le guider. Il chemina longtemps sans plus s'inquiéter de l'heure qui passait. Parfois, il trébuchait tant de fatigue qu'il parvenait à peine à se relever. En fin de compte, dormant tout debout, il ferma les yeux et perdit la notion du temps et de l'espace. Il ne s'éveilla qu'au matin du quatrième jour. L'obscurité autour de lui était complète, mais les clameurs d'une foule en délire lui parvenaient, amplifiées par les murailles qui l'entouraient. Il se guida à l'oreille et vit bientôt, au bout d'un tunnel voûté, une vague lueur de jour. Il allait surgir à la lumière quand des mains l'agrippèrent, et en moins de temps qu'il n'en faut pour l'écrire, il se trouvait installé en figure de proue d'un léger véhicule à deux roues, ancêtre du sulky, ainsi qu'il avait été attelé au char de Poséidon. L'instant d'après, il était projeté dans la rumeur d'un cirque de pierre incendié de grand soleil. Il courait dans un nuage de poussière parmi d'autres chars de course dont les ors et les couleurs rutilantes rivalisaient de luxe et de magnificence. Les vivats de la foule encouragèrent les concurrents, acclamèrent les vainqueurs, huèrent les perdants. Lippo ne savait où donner de la tête dans cette fête antique aux passions sauvages et déchaînées. Accroché en fière figure victorieuse, Lippo passa sous l'arc de triomphe, fut décoré de couronnes de fleurs et de feuillages comme un gagnant de grand prix moderne, et mené devant l'empereur. Le jeune homme, qui avait remporté avec tant de brio la course de chars, fut si admiré, félicité et entouré d'une multitude de fanatiques et d'admiratrices que l'empereur, presque vexé de passer ainsi au second plan, vint flatter la tête de Lippo. « Quel est ton nom ?»«
Je m'appelle Lippo, sire, » murmura Lippo, intimidé par la haute prestance de celui qui daignait se pencher vers lui.
« Eh bien, Lippo, tu as porté bonheur à ce jeune homme. Sauras-tu accomplir à nouveau ce miracle pour la prochaine épreuve ?»«
Je tâcherai de me montrer digne de votre confiance, sire. »
« Si tu y parviens et que tu me le ramènes victorieux, je saurai te récompenser. Si tu ne le ramènes pas vivant, je te livrerai au lion. C'est mon fils, il doit me succéder. Tu seras son armure pour combattre dans un cercle de feu. »
Lippo aurait voulu fuir ces terribles perspectives, mais il ne le pouvait pas et dut s'incliner devant la volonté de l'empereur. Au cours de cette joute sans merci, il subit, stoïque mais terrifié, les assauts furieux des adversaires qui s'affrontaient en un duel sanguinaire, dans le cercle des flammes sans échappatoire. 100 fois, il crut sa dernière heure arrivée, il pensait au patriarche et à son conseil précieux. « Pour bagage, tu n'emporteras que ton intelligence. » Comment la seule intelligence pourrait-elle annihiler tant de cruautés inutiles, tant de souffrances sans raison ? Les pensées de Lippo s'évadèrent vers le passé, remontant vers le centre de la terre, là où la boule de feu n'est que violence, là où, au temps très ancien, les volcans crachaient laves et scories, ne laissant que des cendres sur leur passage. En ces temps-là, chaque être vivant devait tuer pour survivre, et ne trouver refuge que dans les entrailles de la terre, se protégeant par le feu. À la lueur de ces flammes, Lippo entrevit sur les parois des grottes les peintures rupestres des chasses et des combats de l'histoire avant l'histoire. La beauté brute et mystique de ces témoignages le fascinait. Il eût voulu s'attarder à leur contemplation, retrouver ses lointains ancêtres, ses cousins. Mais ce n'était plus le moment. Le fils de l'empereur, le pied posé sur la gorge de son adversaire terrassé, allait l'anéantir dans le fatal cercle de feu. Révoltée par la survivance des cruelles pratiques, la jeune âme de Lippo, dont les ailes commençaient à prendre de l'envergure, souffla au vainqueur une once de clémence. Celui-ci fit relever le vaincu, l'embrassa et le gracia pour sa bravoure. Tandis que la foule dans le cirque était submergée par un fanatique délire d'enthousiasme, l'empereur se tourna vers Lippo qui avait cessé d'être armure. « Tu as accompli ta mission, Lippo. Tu as préservé mon fils. Mais aussi, tu lui as donné une grande leçon d'humanisme, savoir reconnaître la valeur d'autrui. Je t'ai promis une récompense. Dis-moi ce que tu souhaites. » Alors Lippo expliqua, ainsi qu'il l'avait fait avec le patriarche, Poséidon, la Draque et le roi Écaï, sa promesse de découvrir le monde et l'univers et de tout apprendre de la création. « J'aurais voulu te garder comme talisman pour mon fils, Lippo. Mais, puisque tu le désires, je vais t'ouvrir la porte de ta prochaine étape. Allons dîner, et lorsque nous nous serons restaurés, je t'indiquerai la route. » Après une fastueuse et interminable succession de mets délicats et succulents, après une abondance infinie de fruits magnifiques et savoureux dressés en pyramide, l'empereur se leva de son divan et, sans le laisser se reposer sur ses lauriers, emmena Lippo dans le patio de son palais de marbre. Là, il traça un cercle de paille, l'enflamma et dit « Ferme les yeux et traverse ce cercle, Lippo. Quand tu te réveilleras, tu seras arrivé. Bon courage !» Lippo remercia avec respect et l'empereur l'embrassa comme s'il était son égal. Puis, habitué à sacrifier son sommeil, oubliant sa peur du feu, Lippo se jeta au cœur du cercle. Au matin du cinquième jour, lorsque Lippo ouvrit les yeux, il régnait une intense agitation autour de lui. Les lumières s'interpellaient, les musiques se croisaient, les hommes et les bêtes jetaient mille étincelles de vie autour d'eux. À première vue, cela ressemblait à un abominable désordre. Quel cirque ! Pensa Lippo. Cependant, peu à peu, il comprit que chacun avait un rôle à jouer et se hâtait de se mettre en place pour une fantastique et joyeuse représentation. Le tintamarre devint fanfare. Tout et tous s'ordonnèrent en parade, chamarrés d'or et de paillettes, le cœur battant la chamade. L'orchestre entama son air triomphal, une foule bon enfant applaudit, ravie et déjà enchantée. « Oui, c'est bien un cirque, » pensa à nouveau Lippo, mais pas celui d'hier. Lippo s'apprêtait à se glisser parmi les spectateurs pour regarder lorsqu'un homme en queue de pie et chapeau haut de forme l'attrapa par l'épaule. « Qui es-tu, toi ?»«
Je suis Lippo, » répondit-il avec un brin d'orgueil. « Moi, je suis Monsieur Loyal. La direction de la piste, c'est par ici. Allez, en route, avec les autres !»
L'ordre était impératif, mais pas vraiment sévère, et Lippo y accéda avec plaisir. Il fut fier d'orner le front des éléphants, de jongler sur le nez des otaries, de caracoler avec les écuyères, de danser sur un fil avec les équilibristes, de se cacher dans la poche d'un clown ou sous sa perruque et de jaillir à l'improviste pour que la foule hurle de rire ou se taise d'émerveillement. Lorsqu'il sortit du chapeau du magicien parmi les colombes blanches, Lippo, sur son corps de bronze, sentit pousser une aile d'or, diaphane comme celle d'un elfe. La représentation se déroulait, toute de joies et de bonheur, de larmes, de rire ou d'émotion. Monsieur Loyal orchestrait de main de maître cette fantastique tournée de rêve dans son grand vaisseau de toile. Tout le chapiteau vibrait d'images, de couleurs, de sons, de sentiments et de sensations. Lippo aurait voulu que jamais cela ne cesse. Il vivait un conte de fées merveilleux qu'il eût voulu éternel. Il en oubliait presque la promesse au patriarche. Près de lui évoluaient des princes et des princesses de pacotille, mais leur royaume féerique était bien réel, et, de son regard particulier aux yeux d'or, Lippo voyait tous les lutins, korrigans et feux follets qui parsemaient d'étoiles la piste ronde. Les sorcières et les marâtres y devenaient des belles, les ogres et les brigands se muaient en lions royaux et en aigles impériaux. Jamais cirque n'avait donné telle représentation. Monsieur Loyal lui-même en était si surpris qu'il faillit oublier de donner le signal de la parade finale. Et là encore, ce fut un feu d'artifice étincelant, un triomphe musical qui emportèrent à jamais dans la joie les spectateurs présents. Quand le chapiteau retrouva le vide et le silence,
quand seul le vent vibrait dans les haubans tendus, M. Loyal vint trouver Lippo, demeuré au centre de la reine de sable. « Qui es-tu, Lippo? Pourquoi viens-tu parmi nous ?»
Lippo, encore ébloui de merveille, répéta à M. Loyal ce qu'il avait déjà expliqué au patriarche, à Poséidon, à Ladrac, au roi Écaï et à l'empereur, que rien ne lui reste inconnu de ce monde et de tout l'univers.
« Tout l'univers !» s'exclama M. Loyal. « Ton ambition est grande, Lippo. Ici, tu es dans l'univers des étoiles terrestres. Voudrais-tu connaître celui des étoiles célestes ?»«
Bien sûr !»«
Alors, après le repas, aide-nous à démonter le cirque. Nous devons partir à la nuit. Tu démonteras les trapèzes et là, tu trouveras ta route. Viens dîner d'abord. »
Lippo suivit son hôte et ils rejoignirent les artistes qui, dépouillés de leurs costumes et de leur maquillage scintillant, étaient redevenus de simples mortels.
Autour d'un feu de bois, ils dînèrent dans une ambiance familiale et bon enfant. Lippo se sentait si bien avec eux qu'il trouva bien vite arrivé le moment de se mettre au travail. Juste avant de s'envoler de son aile d'or vers le sommet du chapiteau, Lippo remercia M. Loyal et tous ses nouveaux amis avec chaleur. Il aurait bien aimé les revoir un jour. Puis il s'élança et remplit sa mission. Lorsque tous les trapèzes furent décrochés, M. Loyal pointa son doigt vers le ciel. Par la toile du chapiteau, un cercle laissait voir les lanternes de la nuit. « Va » intima-t-il.
Lippo salua une dernière fois et prit son envol, tout droit, très haut, longtemps, si longtemps qu'il en perdit toute connaissance, ivre de trop d'émotions.
Le ciel était redevenu clair et les étoiles invisibles à la terre lorsque Lippo se réveilla au matin du sixième jour. Il se trouvait dans un espace infini, tout orné de lumière sur une profondeur bleue comme un jardin planté de roses d'or magnifiques. Porté par son aile, il se sentait libre et léger comme une éphémère. Là, personne ne lui portait attention, personne ne lui imposait sa volonté.
Lippo gambada, batifola, butina tout à son aise. Il taquina les comètes et les astéroïdes, flirta avec Vénus et Cassiopée, joua à saute-météore et à cache-nébuleuse, nagea comme un poisson, se mira dans les gémeaux, chevaucha, sira et plongea avec délice dans mille autres magnitudes galaxiques. Alors qu'il s'abreuvait à la voie lactée, un gros soleil vint troubler son insouciance.
« Qui es-tu? De quel droit viens-tu déranger l'ordonnance de cette voûte céleste ?»«
Lippo est mon nom, » répondit Lippo tout confus soudain. « Je suis désolé, j'ignorais. »
« Tu ne dois rien ignorer, » gronda encore le boulet de feu. « Sais-tu qu'ici, chez moi, à Pégase, tout doit être au carré. Pour ta peine, tu vas ranger ce que tu as bousculé. Quand tu auras achevé cette tâche, tu reviendras me voir. »
Lippo n'osa répliquer et se mit au travail à l'instant. Il s'aperçut qu'il était beaucoup plus simple de déranger que de ranger, et que c'était beaucoup moins amusant, surtout quand les plus follettes des étoiles et les météoroïdes mettaient un malin plaisir à bouger dès qu'il les avait remises à leur place. Il était déjà tard lorsqu'enfin il eut fini. Il paracheva son œuvre en poussant les poussières d'étoiles dans la voie lactée. Il alla alors trouver Pégase et lui présenta d'humbles excuses. Pégase avait abandonné son ton de réprimande. Il était satisfait de la bonne volonté de Lippo et de son efficacité. «
C'est bien, Lippo, tu as bien travaillé. Voilà une leçon que tu n'oublieras pas, j'espère. »«
Oh non, votre splendeur !» répondit Lippo avec respect.
« D'où viens-tu? Où vas-tu ? »
Lippo, une nouvelle fois, répéta ce qu'il avait dit au patriarche, puis à Poséidon, puis à Ladrac, puis au roi Écaï, puis à l'empereur, et enfin à M. Loyal, tout en racontant par le menu les aventures qu'il venait de vivre. Pégase réfléchissait à la vitesse de la lumière et proposa « Je vais t'aider dans ton voyage, moi aussi. La constellation JH va bientôt imploser. C'est le destin des étoiles, vois-tu ? Nées de l'atome, elles redeviennent atomes. Un jour, sans doute, cela sera-t-il mon sort. En attendant, prenons une collation, puis tu la rejoindras. son atomisation te mènera à ta prochaine destination. »
Merci, votre splendeur,
s'inclina l'Hippo avec déférence. Ils goûtèrent de glace de Mars, d'orange terrestre, d'anneau de Saturne, en buvant à la source de la Voie lactée. Pégase, qui appréciait son compagnon, entretenait un discours cosmique dont l'Hippo n'aurait pu se lasser tant il était passionnant et instructif. L'heure de se séparer vint, à leur grand regret, mais après des adieux sincères, l'Hippo prit son envol. Son aile diaphane l'avait à peine porté vers J.H. que la prévision de Pégase se réalisa. La planète de feu implosa, se réduisit en poussière atomique aussi fine que les spores d'un champignon. Une immense dépression se creusa comme un typhon et l'Hippo se trouva pris dans la spirale du trou noir qui tourbillonnait à une allure d'enfer. Étourdi, il eut pourtant le temps d'entrevoir le futur dans le cosmos, stations orbitales et navettes spatiales, satellites et observatoires planétaires qui occuperaient au cours des prochaines années-lumière les galaxies à découvrir. Puis la vitesse s'accélérant encore, l'Hippo, pris de vertige, sombra dans le trou noir du sommeil. L'aube du septième jour ressemblait à une aurore printanière, douce, parfumée et fleurie. L'Hippo, encore irradié par la violence atomique de son voyage, n'osait bouger de peur de casser un beau rêve de paix. Un chant d'oiseau, un rayon de soleil, une senteur de muguet et de rose lui prouvèrent qu'il était bien éveillé. Il tourna la tête et, à son geste, une voix s'éleva. « Bonjour, comment vas-tu? Comment t'appelles-tu? »«
Bonjour, je m'appelle l'Hippo. » »«
Tu as subi un long voyage, l'Hippo. » »«
Je suis le poète et je vis dans les étoiles, mais mon jardin est plus vaste encore. Lorsque je t'ai trouvé, tu semblais bien mal en point. D'où viens-tu ?»
L'Hippo raconta alors toutes les péripéties de son voyage, sa promesse au patriarche, son passage chez Poséidon, l'Adrac, le roi Écaille, l'empereur, sa visite à Monsieur Loyal et à Pégase. Il redit son désir de tout connaître, de tout apprendre.
« Je ne t'imposerai pas d'épreuves, je ne t'obligerai pas à travailler pour moi, » dit le poète. « Je t'aiderai seulement à poursuivre ton destin quand le moment sera venu. » En attendant, je te propose de visiter le monde qui est le mien et celui de tous les poètes de l'univers. »
L'Hippo approuva avec joie le programme proposé. Le poète l'emmena donc respirer la rose éclose du matin où la rosée nichait encore. Il lui fit admirer les ciels d'aurore et de crépuscule, les perles de pluie des pays où il ne pleut pas, la mer qui danse le long des golfes clairs. Il partagea avec lui un coin de parapluie, la banquette d'un bistrot pour se mettre au chaud, les grandes heures de Montmartre et les misères de ceux qui sacrifient toute leur vie à la poésie et à elle seule. Traversant les miroirs, il lui présenta les artistes, les anciens, les classiques, les modernes, les précurseurs, les naïfs, et l'Hippo fut impressionné à jamais par leur richesse et leur diversité, leurs grandes vérités et leurs rêves fous. Il se promit de pouvoir dire, au bout de son chemin, qu'il a peut-être un jour été utile, qu'il a gagné pour les autres, même s'il a été pour lui perdant. Quand le poète lui parla de la liberté, l'Hippo comprit que celle qu'il revendiquait auprès du patriarche pour aller découvrir le monde était bien futile et bien vaine. Il apprit ce qu'était la vraie liberté. Celle qui seule pouvait abolir les barreaux et les barbelés de l'ignominie, celle qui s'écrivait sur chaque chose, qui tombait du ciel comme une neige pure pour couvrir les pas ennemis. Il apprit aussi l'amour. De toutes les étapes qu'il avait franchies depuis son départ, l'Hippo sentit que son séjour chez le poète était capital pour son avenir, que, pour la première fois, il devina sans oser le formuler. Le poète, lui, devait le savoir, car il n'eut de cesse que l'Hippo acquiert une soif à jamais inextinguible de tout ce qu'il lui enseignait. Il le mena enfin dans sa maison bucolique de roses, que des chats de toutes couleurs hantaient comme des âmes familières, et où les recueils de poésie constituaient l'essentiel des meubles. L'Hippo, émerveillé d'une telle abondance, se livra sans réserve à cette découverte. Le poète se contentait de le guider pas à pas, page à page. L'Hippo lui conférait le titre de maître, et ce n'était pas usurpation, tant le poète en était digne. Cependant, tout a une fin, et Lippo dut en convenir lorsque sonna l'heure du dîner. Le repas frugal fut riche d'un autre partage, celui de l'amitié. En frères, ils rompirent le pain et partagèrent le vin dans l'unisson de grandes et belles pensées. Puis le poète invita Lippo à se reposer. « Pendant que tu dormiras, ce livre te mènera à ta dernière étape. Il en est la clé. Tu as accompli les plus difficiles parties de ton voyage. Il ne te reste plus qu'à remplir une mission avant de revenir chez toi. Salue bien de ma part ceux que tu rencontreras demain. » Lippo promit de transmettre le message et remercia le poète avec chaleur, regrettant de ne pouvoir demeurer plus longtemps avec lui. « Tu me rendras visite dans tes songes, Lippo. Tu verras, nous nous retrouverons. Je ne t'oublierai jamais. » « Moi non plus, maître, » répondit Lippo, les larmes aux yeux à l'idée de quitter ce qui ressemblait fort à un paradis. Le sommeil emporta le chagrin des adieux, puis le poète ouvrit le livre comme une porte, y glissa son visiteur du jour, tout perdu dans ses rêves. Le soleil se levait à peine sur la toute petite planète quand Lippo ouvrit les yeux. Le huitième jour commençait. Un petit bonhomme sur un tabouret contemplait l'astre matinal. Près de lui, une rose, une seule, toute droite et magnifique, juchée sur sa tige d'épine. Un peu plus loin, une caisse en bois. « J'aime toujours regarder le soleil se lever. Mais qui es-tu, toi ?»«
Je suis Lippo. Et toi ?»
Le soleil donne à la rose son parfum et sa couleur. « D'où viens-tu ? »
« Je viens de très loin, c'est long à raconter. Où suis-je arrivé ?»«
Des baobabs ont poussé cette nuit. Mon mouton va les manger, ce matin. »«
Ton mouton ? Où est-il ?»
Lippo regarda autour de lui sans voir de mouton. « Il ne te répondra pas, Lippo. Le petit prince ne répond jamais aux questions. Son mouton est dans cette caisse en bois qui est là. »«
C'est le plus beau des moutons, » coupa le petit prince, en changeant son tabouret de place pour mieux voir l'aurore.
« Je suis Saint-Ex, le père du petit prince. Il y a bien longtemps, lorsque je vivais sur la terre, je pilotais un avion pour porter le courrier. Un jour, je tombais en panne dans le désert. C'est là que je l'ai connu. Puis il est reparti sur sa planète. La guerre et ses folies ont empoisonné la vie sur terre. Mon avion fut abattu et mon destin me mena près du petit prince. Depuis, nous vivons ensemble. C'est petit ici, mais nous y sommes bien. Et toi, Lippo, d'où viens-tu ?
Lippo alors raconta son long voyage, sa promesse au patriarche, ses rencontres successives avec Poséidon, la Draque, le roi Écaï, l'empereur, Monsieur Loyal, Pégase et enfin le poète dont il transmit le message amical. Le petit prince ne semblait pas accorder d'attention au récit de Lippo. Il avait placé son tabouret à l'autre bout de la planète pour assister au coucher du soleil. Il posa cependant une question qui prouva qu'il avait bien écouté.
« As-tu trouvé beaucoup de roses au cours de ton voyage ?»«
Oh oui, beaucoup, de toutes les formes, de toutes les couleurs, de tous les parfums, parfois isolées, parfois en bouquet, parfois en foule, mais jamais, jamais je n'en ai vu une aussi belle que la tienne, » ajouta-t-il sincère.
« Je m'en occupe bien, je la protège, » acquiesça le petit prince, reprenant sa contemplation.
Saint-Ex, lui, se rapprocha de Lippo. « Tu as visité la terre, Lippo, comment va-t-elle ? Y a-t-il encore des déserts avec des aviateurs en panne et des petits princes qui ne répondent pas aux questions ?»
La nostalgie pointait dans la voix de Saint-Ex. Lippo regretta de devoir lui répondre.
« Oui, les déserts existent toujours. » Mais les avions n'y sont que des carcasses abattues, et lorsque des enfants les gardent, ils portent une mitraillette en bandoulière. Les frontières changent si souvent que les fabricants de map-monde en perdent la boule.
Déçu, Saint-Ex soupira. Les hommes ne sont donc pas plus sages qu'autrefois. Et l'aéropostale, qu'est-elle devenue ?
L'aéropostale a été une belle aventure dans l'histoire de l'humanité.
Une belle aventure, coupa Saint-Ex, ironique et amère. Seulement une aventure.
Oui, une belle aventure, mais qui a été précurseur d'autres aventures, tout aussi belles. Aujourd'hui, tout le courrier est transporté par avion, des avions bien plus puissants que le vôtre. Et puis, d'autres moyens de communication ont été inventés, le câble, la fibre optique, les ondes transmises par satellite. Glanant dans ses récentes connaissances tout ce qui pouvait intéresser son interlocuteur, Lippo parla longtemps. Syntex écoutait avec passion, et il fut empli d'espoir et de joie lorsque Lippo lui raconta qu'une navette spatiale et une navette orbitaire, appartenant chacune à une nation jadis ennemie l'une de l'autre, avaient pu s'accoster et que les cosmonautes et astronautes respectifs s'étaient embrassés comme des frères. « Tout n'est donc pas perdu, » murmura-t-il, ému du plus profond de lui-même. Il ne se lassait pas d'entendre Lippo, mais le petit prince vint le trouver et demanda « Dessine-moi un goûter. Nous devons manger avant que Lippo ne reparte chez lui. » Syntex se plia volontiers à la demande du petit prince, mais à chaque fois la brioche était trop plate ou trop ronde, bossue ou brûlée. Alors Syntex, renonçant à créer un chef-d'œuvre qui répondrait aux désirs exacts du petit prince, traça les contours d'une boîte en carton. « La brioche est là-dedans. Elle est encore tiède. Nous pouvons la goûter. »«
Elle est parfaite et sera délicieuse, » répondit le petit prince.
Ensemble, ils partagèrent le gâteau. Le jour se levait à nouveau et Lippo tout à coup s'alarma.
« C'est le 9e jour. Je n'arriverai jamais à temps chez moi. »
« Que t'adviendrait-il si tu n'arrivais pas avant ce moment ?» questionna Syntex.
« Je devrais rester ici. »«
Nous te garderons bien volontiers, Lippo. »«
Je serai content aussi de vivre avec vous, mais... »
Le regard de Lippo se voila de tristesse à l'idée de ne jamais revoir sa famille, ses amis, le patriarche, son pays, enfin. « Ma planète est si petite que le soleil se lève et se couche plusieurs fois par jour, » coupa alors le petit prince.
« Tu as le temps de repartir. »« Oh, merci, merci. »
Le dernier mot de Lippo fut dit tout bas, car soudain il se sentit partagé entre la joie et le chagrin du départ. « Il est temps, » murmura Syntex, dont la voix, elle aussi enrouée, trahissait l'émotion. Pendant qu'ils échangeaient leurs adieux, le petit prince arrachait un baobab pour ne pas montrer son trouble. Il dit en guise d'au revoir, « Quand tu reviendras, nous partagerons une autre brioche. » Syntex fit grimper Lippo en haut d'un minuscule volcan toujours en activité. Il lui montra l'espace, le vide. « Pour aller chez toi, tu dois sauter sans crainte. L'air te portera et te conduira jusqu'au patriarche. » Lippo remercia encore ses amis et... L'heure venue, dans le soleil se couchant à nouveau sur la petite planète, Lippo s'élança. Son aile d'or, enflammée de crépuscule, le soutenait avec douceur. Il plana, puis s'enfonça dans la nuit, en une chute lente comme une montgolfière qui voudrait atterrir. Le sommeil le prit dans cette atmosphère paisible et tranquille. Il ne lui fallut pas moins de la nuit pour atteindre les frontières de son univers. Les premières lueurs du 9e jour blanchissaient à peine l'horizon lorsqu'il plongea enfin dans les eaux translucides de l'océan. Il frissonna et s'ébroua, puis, de son aile redevenue nageoire, il prit le chemin de son lieu de naissance. Sur la route, il fut reconnu et salué avec amitié. Lippo, enchanté d'un tel accueil, se hâtait, heureux comme un poisson dans l'eau. Quand il atteignit son abysse natale, ce fut un vrai délire de joie. Il fut couronné de plancton en fleurs et porté en triomphe jusqu'au palais de corail et de nacre du patriarche, tandis que de jeunes et jolies damoiselles paradaient autour de lui pour le séduire. Les gardes de l'entrée, en armure et caille, se courbèrent avec respect et le menèrent auprès du maître des lieux. Lippo s'inclina avec une grande déférence et une humilité nouvelle, qu'il déposa aux pieds du patriarche.
« Me voici, vénéré patriarche.
C'est bien, Lippo, tu as tenu ta promesse. Qu'as-tu appris au long de ton voyage ?» Lippo alors raconta ses différentes rencontres, Poséidon, la Draque, le roi Écaï, l'empereur, Monsieur Loyal, Pégase, le poète, le petit prince et Syntex. Satisfait, le patriarche hochait de la tête. « Je vois, Lippo, que tu as fait bon profit de la liberté que je t'ai accordée. Quels sont tes projets, maintenant? Veux-tu encore voyager ?» Lippo prit le temps de réfléchir. Lorsqu'il avait vu le patriarche la première fois, il était tout feu tout flamme, et avait eu peine à se contenir. À présent, il se sentait envahi par un grand calme, une certitude plénière et sereine. D'un ton posé et doux, il répondit enfin « Je souhaite demeurer ici, parmi mes semblables. Je désire me marier et élever mes enfants. »
« Tu as raison, Lippo. J'espérais bien une telle réponse. Tu as parcouru le monde, tu as appris beaucoup de choses, fondé un foyer et ce qu'il te reste à apprendre. Je souhaite que tu t'installes près de moi. Je suis déjà très vieux, un jour je mourrai. Si tu l'acceptes, je t'enseignerai ce que je sais, car moi aussi, lorsque j'avais ton âge, j'ai voulu tout savoir de l'univers. Et un jour, lorsque tu auras acquis assez de sagesse, je te donnerai ma place, tu règneras sur notre peuple. »
Lippo, le souffle coupé, impressionné par tant d'honneur, ne trouvait plus un mot à dire. Il ne sut que s'incliner devant le désir du patriarche et jura sur sa vie qu'il se montrerait digne d'un tel choix.
« Il ne te reste qu'une seule épreuve à remplir pour sceller ton avenir, Lippo. Tu dois te trouver une devise à inscrire au fronton de ton logis. Quelle sera-t-elle ? »
Lippo sourit enfin et dit « Vénéré patriarche, je souhaite y graver, ici, pour toujours, Lippo, campe !»
Nantes, 9 février 1995. Ici se termine Lippo ou le 9e jour de Géode Ham, enregistré par Christiane Johan, sous licence CC-BY-NC-ND. Illustration musicale de Pascal Krieg, tout droit réservé.